Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la LPM et des arrêtés sectoriels. Et nos invités sont Alexandre Fernandez-Taureau.
Bonjour.
Aurélien Le Teinturier.
Bonjour.
Et pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Christophe Renard.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Ulloa. Donc Aurélien, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs ?
Alors je travaille à l'ANSSI et chef du bureau qualification et agrément. Ça veut dire que travaillent pour moi les personnes qui vont qualifier des produits de sécurité, donc pour la LPM, pour le RGS, pour IDAS. Donc je pense que tout le monde pourra trouver ce qui l'intéresse et également pour... Les agréments qui concernent plus la défense nationale. Donc c'est assez exhaustif et c'est à la fois des produits et des prestataires.
Merci. Alexandre ?
Bien, moi, je suis Alexandre Fernandez-Taureau, je suis RSSI. Avant ça, j'ai été consultant en sécurité pendant 10 ans. Et puis avant, j'ai fait d'autres choses, de la prod et du développement, mais c'était il y a très, très, très longtemps. Je m'intéresse beaucoup à l'ISO 27001, mais les gens savent un peu moins que je m'intéresse beaucoup aussi à la loi de programmation militaire et aux OIV.
Tu t'intéresses à la loi ou c'est la loi qui s'intéresse à toi ?
Eh bien, je m'intéresse aux lois qui concernent beaucoup de gens, peut-être moi, c'est possible.
Ah oui, c'est vrai que la liste des OIV est secrète.
Alors justement, qu'est-ce qu'un OIV ?
Un OIV, c'est un opérateur d'importance vitale. C'est une sorte de liste noire où, quand tu es dessus, tu dois dépenser beaucoup d'argent pour faire la sécurité, remonter tes incidents à l'ANSSI, et tu es soumis à tout un tas d'obligations de contrôle et d'inspection. Donc, voilà. Et cette liste est secrète. On ne sait pas combien il y a de gens dessus et qui ils sont.
D'accord, mais qu'est-ce qui caractérise un OIV ?
Alors, en fait, la définition d'un OIV, c'est une entreprise privée ou semi-publique, en tout cas un organisme dont un manquement à l'activité pourrait causer un trouble à l'ordre public. Donc on va retrouver des secteurs qui sont assez évidents, par exemple le transport, un problème dans la SNCF par exemple, va poser trouble à l'ordre public ou va mettre en péril le fonctionnement de la nation. Après, il y a des choses un peu plus exotiques, on peut chercher. Donc voilà, même si la liste complète est secrète, on peut s'amuser à voir qui est un OIV ou pas un OIV. Donc de manière évidente, les fournisseurs d'énergie... sont des OIV. Enfin, le smart grid, s'il n'y a plus de courant, il y a effectivement un problème à faire fonctionner correctement le pays. Et après, d'autres OIV, il y a des secteurs comme l'alimentation. S'il y a pénurie de transport, denrées, ça va mettre à mal le pays.
On sait combien il y a d'OIV, il y en a un peu plus de 200. Hein. Et ça couvre des entreprises très grandes qui sont celles auxquelles on pense naturellement. Et des fois, ça couvre des PME qui ont des activités très pointues dans un domaine et qui sont indispensables au fonctionnement d'une infrastructure, qui sont peut-être celles qui ont le plus de problèmes, évidemment, à mettre en œuvre de la sécurité.
Alors Aurélien, quand on parle de la LPM, on parle de quoi ?
Alors la LPM, c'est une loi qui a été votée en 2013, donc c'est un rappel réglementaire, qui est une loi de programmation. Donc une loi de programmation va en fait définir des budgets, des orientations qui vont modifier d'autres lois. Donc ça modifie le paysage, les lois, la jungle des lois, et ça invite à faire des choses plus concrètes, donc qui sont elles écrites dans des décrets. Donc ça a amené à écrire deux décrets, le 350-2015 et le 351-2015, pour implémenter justement cette LPM qui précise le 350, les moyens pour permettre la protection des OIV, donc des opérateurs d'infrastructures vitales, et le 351 de mémoire, lui, va expliquer qu'il y a des règles à appliquer. Donc on a bien dans le 350 les moyens qui ont été mis avant les fins dans le décret. Et du 351 de mémoire, après, découle un certain nombre d'arrêtés secteur par secteur.
Alors justement, un arrêté sectoriel, qu'est-ce qu'il y a dedans en fait ? En quoi ça consiste ?
Alors c'est lisible sur le JO, ils sortent au fur et à mesure. Donc un arrêté sectoriel en fait va définir pour chaque secteur d'activité des règles à appliquer ou des obligations réglementaires pour chaque OIV du secteur donné.
Donc des règles en matière de...
n'importe quel, enfin, des règles en matière de sécurité, enfin, j'allais dire cybersécurité, pour que ça soit plus chouette, plus dans le groove, mais c'est des règles de sécurité. Voilà, c'est visible sur le JO et on a, ça va de la d'avoir une politique de sécurité, homologuer son système, des choses qui semblent assez naturelles, mais qui sont répétées, qui sont mises sous forme d'obligations. Et puis après, de la journalisation, des règles qui sont liées à la traçabilité, la mise en place aussi de systèmes de sondes, bon, faire de la supervision de sécurité, etc., etc. Donc c'est assez fourni. Voilà, c'est visible sur le journal officiel, qui est peut-être pas la plus belle publication du monde, mais au moins qui est fournie.
Qui a l'avantage d'être 100% électronique maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'arrêtés finalement ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de faire des arrêtés par secteur d'activité ? En plus, maintenant, on en est à 21 ou 22, alors qu'au départ, il devait y en avoir que 12. Est-ce qu'il y a des différences entre ces différents textes ?
Alors, déjà, on a la passion du règlement. Donc ça, quand on a une passion, on assouvit sa passion. Et après, en fait, par secteur, on va avoir une démarche qui est progressive. C'est-à-dire que les arrêtés se ressemblent, mais sont légèrement différents. C'est-à-dire que la mise en place de la LPM, enfin de tout ce qui découle de la LPM, donc maintenant d'ailleurs il ne faut plus dire LPM, mais dispositif de cyberprotection des OIV, puisqu'on n'est plus dans la phase où on va réfléchir à ce qu'on va faire, on va commencer à le faire. Et les arrêtés en fait sont pris par secteur parce que quand on évoquait les OIV, les tailles sont différentes, la maturité est différente, et dans les grandes entreprises, ou par exemple le secteur du nucléaire, la sécurité est un peu plus présente dans la culture, ou heureusement, et d'autres secteurs, la sécurité est un peu moins présente. Donc l'idée n'était pas de mettre en place une loi marteau, la même pour tout le monde, mais de rendre l'application progressive avec des règles qui soient réalistes. Donc c'est sûr que c'est pas le niveau rêver dans l'absolu, mais c'est un niveau qui est atteignable et petit à petit on essaie d'augmenter le niveau, la conscience des biens protégés.
Alors justement, sur le niveau, il y a un temps qui commence à être assez long maintenant, entre le moment où les textes initiaux sont passés et puis la sortie des arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux et qu'est-ce qui a dû se passer chez un OIV entre les deux ?
Alors, chez les OIV, j'étais pas dans chaque réunion de négociation. Simplement, il y a eu des intentions initiales. La LPM prévoit aussi la détection et la remontée des incidents de sécurité, la mise en place de systèmes de détection qui sont qualifiés. Au-delà de ça, il y a... Alors là, j'ai mon anti-sèche, j'ai imprimé une partie du JO, mais l'anti-sèche, elle fait quand même 30 pages. Ça va être un peu compliqué de la relire, mais il y a des règles qui sont très diverses, comme la journalisation, et pour pouvoir dire ça me convient ou pas, je serais capable de mettre en œuvre au niveau d'un OIV, faut qu'il sache déjà chez lui comment il va le faire, comment il peut l'appréhender. Donc il y a toute cette discussion qui est entamée, et cette discussion secteur par secteur, qui est de feuille de route. Donc on commence par voir ce qu'il y a chez soi, on en discute, on voit comment on peut le faire, si on peut le faire, comment on peut étaler ça dans le temps.
Alexandre, tu y as participé ou ?
Pas du tout.
Dommage. Mais alors, toi qui...
Moi, je suis un petit RSS de terrain, donc je n'ai pas participé à ces travaux.
Mais tu dois quand même avoir une idée sur... De l'autre côté du miroir, c'est compliqué de mettre en place toutes ces exigences de journalisation
Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les OIV ne sont pas pris par surprise, parce que, on parle de la LPM depuis au moins 2011, où je me rappelle aux Assises en 2011, c'est peut-être pas la première fois qu'on en parlait, mais en tout cas aux Assises, Patrick Payou avait dit « Attention, les OIV, il y aura dans la LPM qu'on va bientôt voter une partie cybersécurité et vous serez concernés et il y aura des obligations pour vous. » Donc ça, c'est depuis 2011. Le discours a été cohérent année après année. Bon, ça prend le temps de l'administration, mais ça avance conformément à ce qui avait été annoncé. Il y a eu effectivement le temps des négociations. Il y a eu tout à fait en marge de la LPM. Il y a eu un certain nombre de groupes de travail avec des guides de bonnes pratiques, par exemple pour les industriels. Il y a eu un guide de bonnes pratiques pour tout ce qui est SCADA, etc., qui est public, complètement public, et publié dans le site de l'ANSSI. Un certain nombre de travaux dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand les arrêtés sont sortis, il n'y avait pas trop de surprises pour ceux qui étaient concernés, en fait. Donc, les OIV ont vu venir ce qui avait été annoncé, effectivement. Tu veux en savoir plus, c'est ça ?
Oui, de la difficulté.
Oui. Une des conséquences de la loi de programmation militaire, c'est que les opérateurs d'importance vitale doivent identifier ce qu'on appelle des systèmes d'information d'importance vitale. Voilà. Alors, une fois que ces systèmes d'information d'importance vitale sont identifiés, voilà, il faut appliquer un certain nombre de bonnes pratiques. On est vraiment en train de parler, j'ai pas lu tous les 20 et quelques arrêtés qui sont sortis, mais ce que j'ai pu voir, et tu as bien fait de dire qu'ils sont tous dans le journal officiel, donc on n'est pas du tout dans la sécurité par l'obscurité, hein. 95% de ce qu'il faut savoir de la loi de programmation militaire est absolument public et publié dans le journal officiel. Du coup, l'essentiel des actions à faire, finalement, quand on lit les arrêtés, ce sont des bonnes pratiques. On n'est pas en train de parler de grandes actions de sécurité extrêmement complexes. On est dans le mettez à jour vos systèmes. On est dans le. Alors, ce n'est pas explicitement dit, mais en gros, c'est passer de Telnet à SSH. Hein. On est en train de parler de ça. Donc, c'est vraiment un travail très. Très simple, finalement, en théorie. Voilà. Donc, finalement, les RSSI d'OIV sont tenus donc, de lancer des projets pour, finalement, sortir de la zone d'humiliation, quoi, pour les systèmes d'information d'importance vitale. Et justement, un système d'information d'importance vitale, c'est un système d'information étiqueté d'importance vitale. Ce que je veux dire par là, c'est que les systèmes d'information d'importance vitale, ils existaient depuis bien avant la LPM. Donc en fait, ce sont des systèmes d'information normaux. Sécuriser un système d'information d'importance vitale, c'est sécuriser un système d'information avec les recettes classiques, pas du tout originales, extrêmement classiques. Il y a du cloisonnement, il y a de la mise à jour, il y a de la gestion d'utilisateurs. C'est vraiment extrêmement classique, plus effectivement la détection d'intrusions et un certain nombre de choses. Voilà, donc les RSSI concernés, finalement, ils ont affaire à des projets assez classique. La seule différence, c'est qu'il y a des contraintes de mise en œuvre et des contraintes de temps qui, effectivement, justement portent très bien leur nom. Ce sont des contraintes.
D'accord. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des audits pour vérifier que les choses ont été réellement mises en place ?
Alors, j'ai peut-être commencé à répondre, mais je pense que la réponse sera plus pertinente de la part d'Aurélien. Juste un petit mot. Moi, ma compréhension de la chose, hein, c'est que il y a tout un travail de documentation à faire sur les architectures en place, les mesures de sécurité mises en place, etc., etc., les exceptions qu'on a faites, la justification de ces exceptions, et on présente un dossier, on se fait auditer, on appelle ça l'homologation, et c'est un processus de 3 ans, un peu comme une certification, mais voilà, je pense qu'Aurélien saura en parler nettement mieux.
Alors, oui, je voulais rajouter sur les règles, par exemple, il y a des règles qui sont très simples, comme la cartographie, qui peuvent paraître assez trivial, je sais ce que j'ai sur mon réseau. C'est dans la théorie, dans la pratique, la cartographie, c'est extrêmement compliqué. Et il y a des règles qui sont comme ça, des bonnes pratiques qu'on peut commencer effectivement à mettre en place, mais qui nécessitent un peu de temps. Enfin, par exemple, la cartographie, ça fait partie des règles qui sont simples sur le papier, un peu plus compliquées en réalité.
La carte n'est pas le territoire.
Oui, inversement, on peut trouver des choses sympas chez soi et on ne sait pas à qui ça appartient. Je n'ai pas d'anecdote en tête, mais je pense qu'il y en a.
Justement, sur la cartographie, moi, ce que je, enfin, la plupart des OIV et des systèmes qui sont pressentis pour, comme étant d'importance vitale sont plutôt des systèmes industriels, pas tous, mais un nombre considérable. Et sur ces systèmes, souvent, il y a peu de gens pour opérer la partie informatique. On va avoir des automaticiens supportés par quelques informaticiens. Et la cartographie, c'était traditionnellement des schémas plus ou moins à jour, collés au mur. Et dans ce qui était demandé, on leur a dit d'un coup, alors les gars, il va falloir faire de la sécurité à un niveau de maturité que vous n'avez pas. Bon, ça, on pourrait y revenir, c'est déjà un problème pour beaucoup. Mais en plus, il faut que les informations que vous avez affichées au mur, elles soient protégées. Alors, suivant le moment, il y a les domaines en classifié de défense ou en diffusion restreinte. Et donc, vous ne pouvez plus travailler ou alors il faut que votre pièce soit protégée. Chez certains acteurs, c'est un vrai choc, ne serait-ce que ça.
Alors, juste pour parler, il y a plusieurs choses. Il y a la classification confidentielle défense ou diffusion restreinte. Donc, diffusion restreinte un peu plus, mais confidentielle défense, ça dépend vraiment des secteurs. Et par exemple, l'alimentaire, je ne pense pas qu'il soit tellement concerné par la classification. Ce qui est quand même classifié de défense, c'est une mesure massue. En venant à mon premier point, c'est, on parlait de cartographie, on parlait d'automatisme, il y a quand même la rencontre de deux mondes, qui est le monde de l'informatique, on va dire télécom, mais service. Donc on a un ordinateur, on a des câbles, on met ça ensemble, quel que soit l'ordinateur ou le câble qu'on choisit, on bâtit des services, mais le substrat reste le même. Et après, on passe à l'automatisme, où là, on change de monde. J'allais dire, les tensions sont pas les mêmes, on passe d'un gentil 220 volts max et puis des lignes Ethernet à 14 volts à du plusieurs kilovolts sur des PLC, un autre monde, une autre façon de penser. Alors c'est pas qu'ils ne pensent pas la sécurité, ils pensent la sécurité en termes de sûreté de fonctionnement, histoire de pas inhaler, je sais pas, le contenu d'une cuve à chlore, c'est décapant pour les poumons. C'est vrai qu'en cas de rhume, ça peut aider, mais pas plus de 10 secondes. Donc ce genre de choses, on fait rencontrer deux mondes. Donc effectivement, ça prend un peu de temps. L'agence a édité un guide pour essayer d'expliquer ce qu'on attend en termes de sécurité des systèmes industriels. Mais il y a effectivement la convergence de deux mondes à faire et ça prend du temps. Donc la cartographie en est un. Après, sur ce qui est de la différence entre le classifié et diffusion restreinte, c'est pareil, il y a des règles qui sont assez simples.
Alexandre, tu voulais intervenir ?
Oui, pour ce qui est du monde industriel, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu peur quand on parle de sécuriser le monde industriel, on vient de si loin, etc. Ce que je veux dire, c'est que la difficulté dans la sécurisation de tous les systèmes d'information, mais en particulier pour le monde industriel, c'est pas tant de mettre à jour, par exemple, un serveur Red Hat, hein, parce que ça, bon, ben voilà, on prépare le repo pour pas pointer sur Internet, on prend un DVD, on met le repo sur le DVD, on fait Yum Update, bon, très bien, ça prend une demi-heure, et en principe, ça se passe bien. Eh bien, pour faire passer ce message auprès des automaticiens, eh bien, c'est tout un travail, parce qu'ils sont en responsabilité de système, vraiment, ils peuvent vraiment pas se permettre la moindre régression de service, c'est tout à fait légitime. Et donc, il y a la difficulté du projet de se mettre en conformité avec la loi de programmation militaire, c'est de trouver la façon de travailler avec les automaticiens, la main dans la main, pour faire passer toutes ces mesures de cloisonnement, de mise à jour, de compte nominatif, etc., etc. Et ça se passe très bien, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de condescendance envers nous informaticiens, on a beaucoup de condescendance avec les automaticiens, et je pense que ça serait très intéressant d'envoyer des informaticiens en stage chez les automaticiens, parce que je peux vous dire, en termes de continuité de service et de fiabilité de mise en production, ils savent de quoi ils parlent, et ils sont extrêmement demandeurs et extrêmement partants pour faire de la sécurité, pour peu qu'on leur vende des solutions simples, compréhensibles et qui tiennent la route. Voilà.
D'accord. Donc la difficulté réside dans la gestion, en fait, de ce monde qui est l'automatisme, en fait.
Ça prend, oui. Et c'est cette construction de cette relation de travail et le fait de trouver dans chaque contexte la bonne méthode pour mettre à jour telle machine qui est en spare, et donc si on la casse, c'est pas grave, et puis ensuite on en met à jour une autre, et puis on enlève ces serveurs HTTP qui servent à rien, qui ont été recopiés dans ces OU, etc. Cette façon de faire, ça se trouve au cas par cas, équipe par équipe, et ça crée une envie de sécuriser de la part des automaticiens. Et bien tout ce travail-là, hein, entre le UM update d'une demi-heure et le fait que ce soit appliqué sur tout un système de contrôle commande, eh bien ce travail-là peut prendre 5 ans.
Et c'est grave si ça prend 5 ans, il y a une deadline
Ça dépend, si on s'y est pris avant, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y a une date à laquelle... est-ce que l'industriel risque quelque chose s'il n'est pas compatible avec les arrêtés Parce qu'il y a plein de lois où il n'y a pas de sanctions en face. Donc, en fait, bon. Si tu violes la loi...
Comme je suis discipliné, moi, je considère que quand il y a la loi, il faut l'appliquer, c'est tout. Je crois avoir compris, mais je ne suis pas le plus qualifié, qu'il y a des sanctions si on ne l'applique pas. Moi, ce que je pense, c'est que la loi de programmation militaire pour les OIV en général, c'est une opportunité. On parle beaucoup de contraintes, mais c'est une opportunité de sécuriser les infrastructures les plus importantes. Et même pour les opérateurs eux-mêmes, c'est leur intérêt que leurs infrastructures structure fonctionne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vendre en interne.
Non, et effectivement, il y a une sanction, je l'ai pas là, mais c'est 150 000 euros max. Enfin voilà, pour un défaut de déclaration, mais c'est pas l'esprit de la loi telle qu'elle est faite, et je sais même pas si dans la pratique cette sanction peut être appliquée. Par contre, il y a tout un ensemble de textes qui sont là incitatifs, qui sont plutôt comme des guidelines, comme des milestones pour, on va dire, bornes kilométriques, pour être un peu plus souverain, des jalons, mais pour aider justement à la mise en place. Et pour revenir sur l'automatisme, c'est pas limité en fait au SCADA ou système automatique, ça peut s'appliquer à des systèmes télécom ou par exemple le système bancaire ou des choses qui rendent des services autres que de l'automatisme, mais qui vont être critiques pour le pays. Si ces réseaux tombent, c'est critique la sûreté nationale, l'ordre public. Donc on va trouver des opérateurs télécom, par exemple.
Mais Alexandre, tu disais justement que ce qu'il fallait promouvoir auprès des automaticiens, mais en fait c'est la même chose auprès des informaticiens, c'est d'avoir des solutions concrètes et simples. Est-ce qu'aujourd'hui, si on est OIV et on a un périmètre réglementé, on peut prendre n'importe quelle solution? Et est-ce qu'on a des solutions pour tous les besoins de sécurité? Je reviens sur du SCADA, mais je connais des cas de salles de contrôle où de façon évidente on ne pourra pas faire de l'authentification personnelle. Personnel ou des choses comme ça.
Quand tu parles de salle de contrôle, tu veux bien expliciter?
Eh bien, faut imaginer que la plupart des industriels qui ont des installations étendues, ils vont avoir des interfaces machines un peu salle de lancement NASA, mais généralement un peu plus petit, où il y a des gens qui vont être là en 3-8 et qui vont s'assurer qu'il n'y ait aucun voyant qui se mette au rouge avec beaucoup de contrôle. Alors ça peut aller du vieux vue-mètre analogique à l'ancienne, on en trouve encore pas mal, à aujourd'hui c'est plutôt des PC Windows avec... 10 PC Windows avec des écrans dans tous les sens.
Et pour afficher des vues maîtres.
Pour afficher des vues maîtres. Non, généralement pour afficher des dépictions d'un process industriel ou d'un process même, d'ailleurs sur du télécom aussi, hein, des salles de supervision. C'est l'équivalent de salles de supervision de prod informatique ou d'un SOC, etc. Mais orienté sur une prod industrielle. Et dans ces environnements-là, par exemple, l'authentification forte, c'est un problème.
Alors c'est pas. Alors déjà dans l'esprit, il y a règles relatives à l'homologation de sécurité. L'homologation de sécurité, c'est déjà réfléchir à ce qu'on fait, écrire un document d'homologation, donc qui va identifier ce qu'on fait, c'est bien, qu'est-ce qui est important. Donc c'est vrai que la différence entre la sécurité et un automaticien, c'est que à la sécurité, c'est dès que ça plante, on arrête tout, et l'automaticien fait dès que ça plante, vaut mieux rien arrêter, que ça n'explose pas. Donc ça c'est caricatural, mais on voit bien que dans l'homologation, il va falloir faire un compromis pour effectivement voir ce qui est important dans son cas d'utilisation, quels sont les biens métiers qu'il va chercher à protéger, qu'est-ce qui est important finalement qui se passe, est-ce que les cuves doivent péter ou pas péter, ça c'est laissé on va dire à la diligence métier. On n'est pas là pour le dire, nous on est plutôt là pour dire ayez cette démarche, réfléchissez à ce que vous faites, et c'est la démarche d'homologation. d'homologation. Donc le dossier d'homologation, on ne l'écrit pas secteur par secteur, c'est chaque entreprise du secteur. Et effectivement, si c'est une console ou si c'est autre, ils vont déjà identifier les biens métiers. Après, si on part de l'homologation pour les moyens, effectivement, l'agence a qualifié des PLC. Il y a un PLC, ça va apparaître sur le site, et petit à petit, on qualifie aussi...
Les communiqués de presse du vendeur sont déjà abondamment sortis.
Voilà. Alors, ça met un peu chafouin, parce que je n'ai pas le temps de mettre à jour le site en avant, alors que je préférerais le faire moi-même, d'abord sur le site de l'agence, et avoir le communiqué de presse. Mais bon...
Alexandre ?
Oui, quand tu parles de PLC, tu parles d'automates, c'est ça ? D'automates. Alors, il y a quand même une difficulté avec les automates, c'est que la durée de vie moyenne dans le monde industriel d'un automate, c'est au minimum 10 ans, souvent 15 ans et parfois plus. Donc, le temps de renouveler un parc pour un grand industriel et un grand périmètre, le temps de passer à des automates qualifiés, il peut se passer vraiment très très longtemps. Donc, il y a des mesures de sécurité relativement faciles à mettre en place. D'autres, comme tu disais, effectivement, l'authentification forte sur des systèmes qui n'ont pas été conçus pour, ou, etc., ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle, alors dans le monde du contrôle interne, on appelle ça des mesures compensatoires, mais dans les arrêtés, il y a ça aussi, c'est-à-dire que les arrêtés sectoriels disent, eh bien, il faut mettre à jour tout, avoir des systèmes à jour et maintenus, je crois, il faut avoir des systèmes maintenus. Et si ce n'est pas le cas, il faut avoir de bonnes raisons, quoi. Il faut justifier et trouver un contournement. Donc les automates, c'est un très bon exemple parce qu'on ne peut pas changer ces automates. Et là, c'est intéressant d'échanger avec des consultants, surtout ceux qui font des pen tests, qui sont confrontés aux différents automates. On voit bien que historiquement, les automates dans toutes les marques, les modèles historiques sont une catastrophe en matière de sécurité. Tous les grands poids lourds du secteur ont dit publiquement, maintenant on a compris la leçon de Stuxnet, maintenant on a compris, croyez-nous, maintenant on fait de la sécu. Alors, rachetez-nous au passage tout votre parc d'automates, hein, donc voilà. Et en fait, quand on discute avec les consultants, on se rend compte que les nouvelles gammes d'automates qui sur le catalogue tiennent compte justement de la sécurité, eh bien, on a vraiment des surprises quand on les fait auditer. J'ai eu des échanges avec certains consultants. La situation est très inégale. Certains fabricants ont compris, d'autres n'ont pas encore tout à fait compris. Et même s'ils ont compris, eh ben voilà, on attend quoi ? On attend 10 ans, on attend 15 ans avant de renouveler le parc. J'ai presque terminé. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que dans ces milieux-là, eh bien, il faut faire... ce qu'on nous recommande du coup, eh bien, c'est de cloisonner par sous-éléments, par sous-ensembles de système.
Cloisonner et détecter, j'imagine.
Oui, cloisonner, détecter, en fait, là, ce qui est dit est vrai. Alors déjà, les automates, bah, soit on peut les reprogrammer, soit ils sont tellement anciens, je pense qu'il n'y a peut-être pas moyen. Ou alors la personne est à la retraite, ou s'est fait écraser, il n'y a plus personne pour développer le produit, j'en sais rien. Mais il y a aussi des produits qui arrivent, donc des pare-feux qui comprennent Modbus ou qui comprennent des protocoles qui sont très propres à l'automatisme. Et on va pouvoir filtrer, cloisonner, mettre des sondes. Donc effectivement, dans un monde idéal, on a quelque chose qui est un peu robuste partout, mais faut vivre avec l'existant. Et après, je confirme, c'est effectivement entre les constructeurs, c'est très divers. On a quelques... c'est très divers et il y a des niveaux de maturité différentes, mais aussi au sein d'un même constructeur, plus ou moins des lignes de produits qui sont historiques, des choses. Donc c'est très, très variable, mais en qualifiant les produits, on essaie de montrer au moins ceux qui sont bons. Donc voilà, c'est une partie où on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a et augmenter graduellement le niveau. Et puis après...
Parce que 100% des gens qui se sont fait pirater aujourd'hui, pas dans le monde industriel, mais 100% des gens qui se sont fait pirater avaient des pare-feux. Donc je ne sais pas si l'exemple est bien choisi.
Alors oui. Enfin, en plus, c'est le pare-feu Open Office, on ne garantit rien. Mais blague à part. Le pare-feu est une mesure périmétrique, c'est-à-dire que ça va arrêter une. Enfin, voilà, c'est comme dans une boîte de nuit, il y a le videur, il va vider 90% des personnes, mais il y en a 10 qui passent, qui vont être un peu plus costauds. Donc on en met un deuxième dans la salle et on rajoute de la défense comme ça en profondeur.
Il vaut mieux des talons aiguilles que des muscles pour rentrer, en général.
Alors, je n'ai pas côtoyé beaucoup d'automaticiens. Mais...
Non, dans les boîtes de nuit.
Ah.
Le pare-feu est plus facile dans le monde industriel. En revanche, si les OIV donc, vont devoir déployer des mesures de sécurité, déployer des produits de sécurité, ils ont généralement un parc déjà installé. Donc, ils vont avoir, si c'est des industriels, ils vont avoir, je sais pas, des PLC allemands, japonais, anglais ou peut-être même français, puisqu'on a quand même des acteurs importants dans le domaine. Ils vont avoir des pare-feux israéliens ou américains, grosso modo, peut-être français. Et puis ils vont avoir des systèmes d'authentification qui vont être du Windows, du Microsoft, etc. Est-ce qu'ils vont devoir bazarder tout ça? Est-ce qu'il y a des produits qui vont être certifiés, homologués, qui leur seront impérativement imposés? Qu'est-ce qu'ils doivent faire avec leur existant?
Avec l'existant, en général, on le garde, ou quand il est cassé, on le remplace. Donc ça ne veut pas dire non plus déconstruire les systèmes pour les reconstruire. Il y a une obligation quand même, c'est de mettre des systèmes de détection. Donc là, ça vient se greffer dessus. Parallèlement au système de détection, ça fonctionne avec des sondes. Donc un bon système de détection, c'est qu'il doit être discret. Ça veut dire qu'une des premières évaluations de sécurité qui sont faites sur les sondes dites souveraines, ça va être de vérifier qu'elles ne causent pas le brin sur le réseau sur lequel on les connecte. C'est le minimum des choses, de vérifier qu'un équipement de sécurité n'apporte pas plus d'ennuis que les problèmes qu'il est censé régler. Donc c'est dit comme ça semble toujours très bête, mais dans la sécurité, finalement, on fait que des choses très très bêtes à répéter. Donc l'innocuité, c'est une chose qui est regardée pour pas que le système déraille ou crash. Et donc ça, c'est la seule obligation. Après, les autres mesures, contrôle périmétrique, mise au pare-feu, sont laissées à l'homologation. Il y a des exigences aussi de journalisation qui sont faites, mais qui semblent naturelles de centraliser, d'aller petit à petit vers ça. Mais une fois de plus, il y a un calendrier outre le temps qui a été laissé pour se préparer à la LPM, pour chaque secteur, il y a un échéancier pour se mettre en conformité avec la LPM et qui se compte en années plutôt qu'en dizaines de jours.
Alexandre, tu voulais réagir ?
Oui, je pense qu'il y a un leitmotiv dans les arrêtés, et c'est normal puisque c'est dans la LPM, c'est dans l'article 22, hein, on dit bien qu'il faut un dispositif de détection d'intrusion, et c'est naturel, c'est tout à fait logique. Maintenant, moi j'entends beaucoup les RSSI concernés par les arrêtés, hein, et comme les arrêtés commencent à arriver maintenant en nombre, eh bien on commence à avoir des exigences donc d'installer des équipements de détection d'intrusion souverain. L'horloge tourne parce qu'il y a des délais pour chaque secteur, et ces délais, ils sont quand même, il faut en tenir compte. À ma connaissance, il n'y a pas encore de liste officielle. Même s'il y a une liste qui circule évidemment sous la table depuis plusieurs années, mais est-ce qu'il y a une liste officielle où les OIV peuvent envoyer leurs appels d'offres pour pouvoir faire leurs courses conformément à la loi ?
Alors, pour faire les courses, dans l'alimentaire, je crois qu'il y a des supermarchés qui sont OIV, donc il n'y a pas de problème. Après, la liste, oui, effectivement, il y aura une liste officielle qui va être publiée, donc ça sera début 2017.
Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, la liste va arriver.
Les travaux sont en cours et c'est...
Moi, j'ai été revendeur Network Flight Recorder 4.0 en France, je peux t'en parler, la détection d'intrusion. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un bouton rouge qui s'allume ? T'as mis ta sonde souveraine et qui détecte, qui dit voilà, signature matched, vous avez une attaque ici, qu'est-ce qui se passe ?
C'est à moi que tu t'adresses.
Je sais pas, c'est...
L'idée, moi, ma compréhension de la chose, c'est qu'il faut un dispositif de détection d'intrusion, mais il faut aussi le service associé, souverain lui aussi, pour justement exploiter H24 les alertes avec des signatures appropriées pour chaque secteur. Et donc, ça n'a pas de sens, c'est ma compréhension, ça n'a pas de sens de mettre en place un dispositif de détection s'il n'y a pas derrière un expert, et les OIV sont clairement pas, c'est pas leur métier de savoir analyser un signal.
Concrètement, En informatique, je veux dire, une machine infectée par un ransomware, bon, tu la débranches du réseau, tu vas essayer de voir si tu peux retrouver la clé. Là, je veux dire, tu détectes, je sais pas, que ton PLC qui contrôle ta cuve à chlore, elle a été reflashée. Qu'est-ce que
D'accord.
tu fais ?
Alors, si le travail, si les arrêtés ont été mis en application correctement, ça veut dire qu'on a appliqué les mesures d'hygiène. Donc, en principe, on est censé être sorti de la zone d'humiliation, c'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut se faire pirater, mais c'est censé être peu trivial. Moi, ce que je constate, c'est que ceux qui se préparent, qui mettent longtemps à faire de la sécurité proprement périmétrique, qui sortent tous leurs vieux serveurs de gestion avec des applications Access dans le réseau industriel, qui l'ont fait sortir côté réseau de gestion, et qu'il ne reste plus que de l'industriel dans l'industriel, que la sécurité périmétrique entre l'extérieur et l'intérieur est propre, qu'on a mis à jour, que voilà, les mots de passe sont de qualité, etc. Évidemment que ça n'empêche pas les intrusions, mais ça rend leur progression plus lente. Et en principe, la détection et une supervision compétente est censée permettre d'empêcher d'entrer les personnes malveillantes au plus profond.
Voilà, d'empêcher le pire. C'est ça que tu vas pouvoir faire, Nicolas, finalement.
Enfin, une détection, ça n'empêche rien. Une détection, ça t'alerte qu'un problème est en cours.
Bah oui, mais voilà.
Alors, en fait, il y a un trio magique, c'est détection, il y a dispositif de détection, supervision et le troisième trio. Donc, le troisième du trio, c'est le PRIS, n'est-ce pas ?
En fait, voilà, c'est la réponse incident. Donc, quand on parlait du tableau de commande dans les SCADA, bon, c'est bien de voir. Moi, je pensais à Homer Simpson devant sa console, une centrale nucléaire. Et là, il y a un voyant qui s'allume et du coup ça amène nécessairement la compétence de celui qui regarde le voyant. Alors un peu plus compliqué parce que les sondes après ça arrive sur des SIEM avec des règles de corrélation, faut détecter, faut voir dans un fatras de log et de bidule un machin inhabituel, donc ça demande un œil et puis des logiciels quand même qui permettent de chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc déjà c'est le prestataire en détection, donc ce service de détection peut être sous-traité à des gens compétents. Et c'est là où la LPM parle de système de détection et non de produit de détection. C'est-à-dire que souvent, on a tort de dire qu'un produit va tout sécuriser ou un boîtier de maraboutage réseau va permettre justement de résoudre tous les problèmes. Mais par rapport à ça, on va associer un prestataire de détection qui, lui, va pouvoir corréler, voir éventuellement s'il a plusieurs clients, voir des signaux entre plusieurs OIV qui peuvent être concomitants. Et ça, c'est du cerveau humain qu'il y a derrière. Et une fois que quelque chose de bizarre, on n'est pas forcément sur l'incident, mais quelque chose de bizarre est vu, il faut encore qualifier, remonter. Et là, quand il y a quelque chose à faire, on va aller dans une première chaîne au bout du prestataire en détection, qui est de commencer à voir ce qui se passe. Et après, on passe à la réponse incident, où là, on va investiguer, on va faire du forensique, on va voir ce que la machine, ce qui s'est passé, a dans le ventre. Et après, il y a une autre étape qui est la reconstruction, où là, on a encore des aides à la reconstruction ou à l'audit. Par exemple, dans les PACI, des auditeurs SSI peuvent faire des audits de conf, voir si ça a été correctement configuré. Donc, il y a toute une chaîne à mettre en place. Il y a effectivement des compétences qui ne sont pas forcément internes à l'entreprise, mais qui peuvent être externalisées. Et le but, c'est d'offrir ce système, c'est aussi de donner une liste de prestataires en détection et de prestataires en réponse à incident qui vont pouvoir opérer ces sondes.
Bon, je ne suis pas compétent dans le domaine, mais il me semble que les gens qui font de la réponse à un incident, ils ont quand même ils ont appris en marchant, quoi. Donc tant qu'il n'y a pas un très grand nombre d'incidents industriels sur des gens avec des gens qui interviennent, qui investiguent, qui se forment, qui essuient les plâtres, etc., je ne sais pas aujourd'hui si on peut trouver des prestataires capables de répondre à un incident sur un automate industriel.
Il y en a un gratuit. Jusqu'à maintenant, c'est l'ANSSI. Mais c'est ce que j'ai compris de la LPM, c'est que maintenant, ce sera payant, il faudra passer par un prestataire.
L'ANSSI a ses prérogatives, mais ne se substitue pas au marché. Donc, quand il y a des choses de graves, l'ANSSI intervient. Mais l'idée des prestataires, c'est aussi d'avoir un bras démultiplicateur à l'effet de l'ANSSI. Parce que, on ne vise pas à monter à 600, puis 700, 800, 1000, et puis après, arriver à 2000, être la plus grosse agence de cybersécurité, phagocyter aussi les SS2I et tous les l'écosystème. Maintenant, on apprend effectivement en marchant, j'allais dire, les attaques sur les automates. Dans les automates, il y a quand même des choses qui sont classiques ou télécom. Hein. Un protocole reste un protocole. Modbus, c'est un protocole plus simple. Il faut juste apprendre comment le parler. Mais bon, enfin, flouder un équipement ou répéter trois fois la même commande, je ne sais pas. Il y a des choses qui, à l'œil, semblent bizarres. Donc après, il faut regarder. Mais c'est toujours basé sur des processeurs, c'est toujours basé sur de la mémoire, de la flash. Donc on garde quand même des constantes.
Je pense que c'est important. Enfin, ce que disait Nicolas, moi j'ai été aussi étonné sur le PASI, par exemple. On a des auditeurs qui sont, ça a été créé récemment, qui peuvent avoir une spécialité industrielle. Enfin, c'est pas encore créé, c'est en cours de création. Moi, la question que je me posais, c'était sur quelqu'un qui fait de la réponse à incident. Est-ce qu'il n'y aurait pas un besoin de cette spécialité? Parce que pour avoir travaillé avec des industriels pour faire leur sécurité informatique, enfin leur sécurité du système industriel, c'est vraiment difficile de faire la jonction entre les risques industriels qui sont souvent basés sur des normes avec des niveaux de pollution ou des choses comme ça, ou des études Céveso, et tel automate peut dysfonctionner et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut monter la tension de ce truc-là sans que personne le voit. Faire la jonction entre les deux pour voir quels sont les scénarios plausibles ou pas, c'est un boulot qui est vraiment difficile. Et j'imagine que quelqu'un qui fait de la réponse à incident, et aujourd'hui les PRIS, c'est des gens qui sont formés à faire de la réponse à incident informatique, assez classique. Ils vont être face à un vrai problème en face, surtout si on considère, et ça c'est peut-être un point à approfondir suivant les sources de menaces qu'on considère, mais si on considère un attaquant dans un cadre de souveraineté, donc qui en veut, qui est une menace supposée avancée, il va être drôlement embêté pour savoir quoi faire face à, il y a un automate qui a été reflashé, qu'est-ce qu'on fait? Et l'industriel en face, il va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que j'ai quelqu'un qui fait le contrôle dessus avec un vocabulaire du type oui, je dois des tentatives de connexion vers un CNC, hein, etc. Effectivement, je pense que peut-être qu'aujourd'hui, c'est une spécificité française où je ne l'ai pas vu encore, mais il y a peut-être un manque d'expérience chez les gens qui vont devoir répondre à un incident sur qu'est-ce qui se passe à la jonction des deux mondes.
Ouais, et puis c'est pas, enfin, si tu lis les post-mortem de Tchernobyl ou Three Mile Island sur Wikipédia, c'est pas un consultant SSI qui va venir avec sa mallette and case qui va te sauver la situation, quoi. T'as des gens devant des boutons, ils doivent prendre des décisions, ils doivent comprendre la physique et la dynamique du système, et ils te disent voilà, la température à tel endroit, ça va faire une surpression dans tel tube, et voilà, ton consultant informatique il servira à rien.
Je pense que chacun son métier, c'est-à-dire le PRIS, son métier, c'est un informaticien spécialiste de la cybersécurité, etc. Les systèmes de contrôle commande de plus en plus sont sous TCP/IP, sous Linux, sous Windows, etc. Effectivement, en dessous, il y a des automates. Mais finalement, en cas d'incident, on aura de toute façon besoin sur le terrain de l'automaticien de l'usine qui sait que ce dispositif il sert à ça, etc., etc. Mais les risques, évidemment, ils portent sur les automates, mais on fait une fixette sur les automates. Mais en dessus, il y a des systèmes de supervision. Et en dessus des systèmes de supervision, parce que le monde est ce qu'il est, et aujourd'hui, on veut pouvoir, depuis un iPad, pouvoir superviser l'usine dans un bar lounge en goûtant un bon verre de Sancerre, eh bien, on a mis en place plein d'interfaces avec du big data, plein de trucs super, et ce sont ces interfaces-là, ces systèmes d'administration à distance, toutes ces interconnexions où là vraiment le PRIS il aura toute son efficacité de dire ils sont passés par là, faut bloquer ici, etc., etc. Après, si on arrive jusqu'aux automates, on aura besoin effectivement d'automaticiens pour dire voilà, arrêtez ici.
Est-ce que la SPM est compatible avec l'usine 4.0?
Alors, non,
c'est pas le choix, je crois.
Pour répondre à ça, il y a effectivement deux mondes qui vont coexister, et le PRIS va pas forcément comprendre ce que fait le système. Donc c'est d'abord un dialogue entre les différents acteurs. Ça va être le PRIS, mais ça va être aussi la société qui a monté le SCADA, parce qu'il y a des intégrateurs pour monter le SCADA. C'est pas forcément celui qui l'exploite, qui le construit. Et l'idée, c'est bien d'avoir un dialogue entre les différents acteurs pour dire si j'appuie sur ce bouton, ça pète ou pas, je dois le faire. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un pen test là-dessus, ou allons-y au Nmap sauvage sur les cuves à chlore? C'est pour éviter ce
moins
genre
SV,
de...
Moins SV.
Ça, c'est une très mauvaise idée.
C'est pour éviter ces idées un peu à la con qu'on pourrait avoir spontanément, mais vraiment que les deux mondes dialoguent. Et puis si une menace de niveau gouvernemental arrive, qu'un PRIS ou un P10 dit que ça dépasse, l'ANSI peut aussi revenir. On est plutôt à vouloir avoir un dialogue entre tous les prestataires qu'une concurrence. dans cette démarche. Avec l'ANSSI également dedans.
En fait, là où ça me pose question, c'est par exemple si on compare un certain nombre de normes du monde bancaire sur les services bancaires qui sont systémiques ou critiques, on y voit des obligations de faire régulièrement des exercices de crise avec des niveaux de réalisme plus ou moins imposés. Et moi, je me posais la question... Je ne l'ai pas vu, je l'ai peut-être raté hein, dans les textes LPM, mais je me dis que si j'ai tout un dispositif, on a identifié les systèmes comme critiques, j'ai tout un dispositif réglementaire qui me garantit que mes produits sont bons, que les prestataires avec qui j'ai contracté ont bien été autorisés, qu'il y a les bonnes relations avec les agences gouvernementales qui vont bien, je me dis que si ce n'est pas testé, ça ne va pas marcher quand il y en aura besoin. Et je trouvais un peu étonnant, ou je ne l'ai pas vu du moins, qu'il n'y ait pas une obligation de dire bah, ce système-là, il faut le mettre en branle de temps en temps, comme on fait un exercice incendie, et on fait une crise, une simulation de crise, attaque sur, mais je ne sais pas, effectivement, peut-être sur les IHM de supervision d'un truc critique. Et puis effectivement, en plus, souvent, c'est... pas facile de faire exploser quelque chose, mais le mettre en panne ou perdre la visibilité dessus et on est obligé de tout éteindre et on est obligé de couper le service, c'est pas inhabituel. Ou avoir un système type de diffusion tel de radio, enfin typiquement ce qui est arrivé à TV5 Monde où il n'y a plus de diffusion, là on est exactement dans le cas où si on ne sait pas quoi faire, si on n'a pas répété la crise, les décideurs ne sauront pas quoi faire.
Oui, alors il y a des règles relatives à la gestion de crise, mais la mise en œuvre du plan de continuité d'activité ou de reprise sur activité, je le vois pas. Donc c'est sur l'alimentation aussi, peut-être sur l'audiovisuel, c'est laissé aussi à l'homologation, l'appréciation de l'homologation, ce qui est critique. Si une heure de moins des Anges de la télé-réalité, c'est à même de perturber l'économie française, je sais pas. Là, j'ai pas non plus, c'est des risques métiers qui s'apprécient entreprise par entreprise et le plan de continuité. Donc après, je renvoie aux règles d'homologation et dans les règles d'homologation, il y a quand même des contrôles qui sont faits, des contrôles périodiques qui peuvent être imposés par l'agence. Donc je ne sais pas si dans le cadre de ces contrôles, on peut rejouer, parce que ces contrôles sont liés à l'homologation quand même, aux règles de sécurité qui sont faites, et si dans le cadre des contrôles, on s'amuse à jouer les plans de continuité d'activité.
Désolé. Et alors, justement, sur ces contrôles, est-ce que les OIV peuvent s'auto-contrôler ? Est-ce qu'il va y avoir des contrôles externes ? J'ai cru comprendre qu'on pouvait demander à un OIV de déclencher un audit de contrôle. Comment est-ce que, en fait, on va vérifier que les OIV, qui sont des opérateurs vraiment critiques pour la France, puisqu'ils ont été identifiés comme tels, font bien leur boulot ?
Alors, sur les, il y a effectivement, ça dépend des arrêtés justement de la maturité, mais il y en a où il y a une possibilité d'autocontrôle et les règles du contrôle sont fixées par le décret. Alors c'est écrit le décret, c'est de manière un peu aride, mais en fait ça renvoie au décret qualification qui lui renvoie au référentiel PACI pour les règles de l'art fixées en termes de contrôle. Après, il y a l'ANSSI qui est capable aussi de déclencher des contrôles et imposer à l'OIV de faire un contrôle par un prestataire PACI. Donc on les appellera prestataires de contrôle, comme ça on n'a pas réfléchi entre PACI et contrôle, ça sera nommé simplement. Mais il y a ce contrôle qui peut effectivement être déclenché.
Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de contrôle. Il y a déjà le mécanisme d'homologation est un mécanisme de contrôle.
Alors, il est toujours assorti de contrôle dans l'homologation. Voilà. Donc, on va vérifier
l'homologation,
ce qu'on a implémenté.
L'homologation étant un mélange d'autocontrôle puisqu'on formalise soi-même les mesures qu'on a mises en place, celles qu'on n'a pas prises et on justifie pourquoi et comment on fait pour compenser. Et c'est contrôlé effectivement par un PACI, voilà. Bon, il y a ça, donc ça c'est tous les 3 ans. Et puis certains arrêtés, je ne sais pas si c'est le cas de tous, imposent l'envoi périodique à l'ANSSI d'indicateurs extrêmement précis, d'indicateurs techniques, vraiment. Ben voilà, le nombre de systèmes, nombre de tentatives d'attaque, nombre de comptes génériques, nombre de systèmes non mis à jour, etc. Donc, est-ce que l'ANSSI derrière traitera cette information et imposera une certaine tension, une certaine pression pour qu'il y ait une amélioration, j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, il y a ce mécanisme et effectivement, je crois quelque part, je ne sais pas si c'est dans la loi, dans le décret d'application ou dans les arrêtés, et il y a un endroit où en gros, l'ANSSI se réserve le droit de descendre chez vous pour voir si vous faites bien votre travail.
Oui, parce que le problème de mandater quelqu'un, parce qu'on n'est pas, si nombreux que ça, et c'est pareil, c'est l'esprit est quand même progressif et d'autonomie, donc progressif pour y aller progressivement, pour que les bons réflexes soient acquis et l'autonomie, bah, que les autocontrôles marchent et que ça soit pas forcément un gendarme qui arrive, qui descende et qui dit ça va pas et vous me corrigez ce bazar. Donc l'idée est vraiment dans la, dans le progressif, dans la prise d'autonomie et dans la compréhension aussi, dans ajouter une couche de sécurité. Donc c'est aussi pour permettre par exemple aux automaticiens de rajouter une couche de sécurité, teinter leur métier plutôt que de le révolutionner. Et ça, on ne saurait pas le... enfin, on saurait pas faire révolutionner tous les métiers, étant donné le nombre d'OIV.
Parce qu'aujourd'hui, le prestataire de contrôle, il est payé par l'industriel. Donc, est-ce que ça ne pose pas un problème ? Dans PCI-DSS, c'est le même modèle, sauf qu'à la fin, celui qui contrôle est personnellement responsable de ce qu'il fait. Ça, il est quand même moins enclin à délivrer des certificats de complaisance, on va dire.
Moi, j'ai entendu un RSSI d'OIV dire « c'est vraiment pas juste, moi, mon employeur est un opérateur d'importance vitale, mon concurrent direct ne l'est pas, donc je suis contraint à des dépenses importantes pour me mettre en conformité, alors que mon confrère ne l'est pas ».
Oui, mais en même temps, comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est vraiment des choses qui sont basiques. Et donc, c'est dans l'intérêt de réaliser ces changements.
Enfin, si... Encore faut-il convaincre celui qui te donne les sous pour accepter ton argument. Tu prêches un convaincu, mais il faut convaincre la DAF.
Après, j'allais dire, s'il y en a un qui est opérateur d'importance vitale et l'autre qui ne l'est pas, c'est qu'il y a peut-être une raison.
Alors, moi, j'ai une question en ce qui concerne le process d'évolution des arrêtés, parce qu'on est dans un contexte quand même où les choses évoluent vraiment très très vite. Comment les arrêtés vont évoluer ? Est-ce que, par exemple, face à une nouvelle menace, on va se dire, bah, tiens, on va créer de nouveaux arrêtés, on va les modifier ? Comment est-ce que...
Face à de nouvelles menaces, les menaces déjà se... Enfin, les arrêtés ne parlent pas de menaces, parlent d'homologation, de règles d'hygiène, de choses à faire, pas sur le plan réactif par rapport à une menace ou un type de choses. Donc la rédaction de ce type de texte, c'est que ça soit stable dans le temps. C'est-à-dire qu'on plutôt édicter des principes et après c'est la mise en œuvre de tout l'écosystème, des PDIS, des PRIS, etc. qui tiendra compte de la menace et de l'évolution de la menace avec l'agence qui a un rôle aussi d'animation de cet écosystème pour qualifier la menace.
Et y répondre.
Et y répondre, des prestataires de réponse aux incidents, c'est bien l'idée. Mais après, continuer à avoir aussi des prestataires qui permettent la reconstruction du système, qui permettent de remédier sur le long terme aux incidents. Donc la connaissance de la menace, finalement, elle est faite par les prestataires, elle est appréhendée par l'homologation, et ce qu'impose un arrêté, c'est de l'appréhender. C'est pas dire, vous devez vous apprendre à ça, ça, ça et ça.
Aujourd'hui, on en est où de l'état ? Il y a combien de dossiers déposés ? Au niveau des industriels, combien étaient prêts, attendaient juste la publication, ou combien ont démarré ? Enfin, c'est quoi le...
Il faut se rappeler que le travail réel, sauf si l'OIV a été prudent et a anticipé ses obligations, mais les obligations de déclaration, en fait, vont commencer à compter du 1er octobre pour ceux qui ont déjà reçu leurs arrêtés. Et ça amène grosso modo à avoir quelque chose, enfin, à commencer une homologation propre en début 2017. Donc aujourd'hui, sauf s'ils ont anticipé sur leurs obligations, les OIV n'ont pas encore fait leurs homologations de SAIV, ne serait-ce que, enfin, de système d'importance vitale, ne serait-ce que parce que ceux-ci n'ont pas encore été déclarés, donc pas encore approuvés par l'agence. En revanche, si on se place dans un calendrier, grosso modo, si on se met à 5 ans, normalement tout devrait être abouti, si je ne me trompe pas. Le niveau de sécurité qui est visé, est-ce qu'il ambitionne de protéger d'attaques de niveau gouvernemental, ou est-ce que c'est quelque chose qui est qui est trop ambitieux à cette échelle, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'attaque gouvernementale, enfin, l'exemple de Stuxnet, c'est l'usine de Natanz, elle était bien protégée. Et y a, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'OIV aujourd'hui qui ait ce niveau de protection, peut-être dans le nucléaire ou des choses de ce type-là, mais ce que l'on voit ailleurs, ce n'est pas ça. Donc est-ce qu'on cherche à se protéger à très long terme contre du gouvernemental, ou est-ce qu'aujourd'hui on fait du basique et on va construire dessus et, qu'est-ce qu'on vise ?
Sans préjuger du niveau de chaque OIV, on est plutôt dans la construction, c'est-à-dire que tout le monde ne fait pas de la réponse à des attaques gouvernementales. Et puis le propre d'une attaque gouvernementale, c'est à la fois d'être efficace, furtive, on ne la voit pas. Donc voilà, c'est un haut niveau d'expertise, donc en face, il faut mettre des moyens. Mais là, on est plutôt dans la construction de bonnes règles. Et après, c'est détecté, il y a un écosystème qui est mis en place, ça veut dire que ça n'exclut pas que l'ANSSI intervienne en cas d'attaque avérée ou autre. Donc on n'est pas à dire tout champion derrière les agences gouvernementales étrangères qui souhaiteraient nous attaquer ou autre. Le but n'est pas de reproduire les compétences d'organismes, mais d'arriver à un peu plus de prise de conscience. Et après, quand on repère quelque chose de bizarre, c'est pas forcément à soi de le traiter, c'est aussi faire appel à la chaîne. On va faire appel à des prestataires de détection qui peuvent aussi faire appel à d'autres prestataires de détection de réponse à incident s'ils n'arrivent pas à résoudre l'affaire et aller en escalade de plus en plus haut. L'agence a intervenu sur des affaires et peut intervenir dans des cas. Voilà. Après, je sais pas le scénario. S'il y a des velléités d'écrire un film ou autre sur cette base.
Il faudrait peut-être demander aux Ukrainiens.
Moi, je pense que si on applique ce qui est dans les arrêtés, ça permet déjà de sortir la plupart des systèmes d'information concernés de la zone d'humiliation. Ça veut dire que ça ne les empêche pas de se faire effectivement intruser, mais au moins ça enlève pas mal de bruit et ça simplifie les choses. Après, on peut espérer que la montée en maturité fera que les systèmes concernés résisteront mieux aux attaques plus évoluées. Et puis après tout, si la loi impose avec autant d'ardeur des systèmes de détection souverains, c'est peut-être que à l'intérieur, il y a des bases de signature souveraines.
Après, sur la prise de conscience, j'allais dire, c'est comme une rixe dans la rue. Bon, on peut éduquer le citoyen, mais on va pas en faire tous des policiers. Donc, on appelle la police. Puis, si ça s'envenime, on appelle un quart de police. Puis après, on appelle les CRS, l'armée. Mais il y a toute une escalade avant de lancer les quatre armées sur une simple baston de rue. Et là, c'est pareil, sur une simple intrusion banale, on va déjà avoir des prestataires ou l'équivalent d'îlotiers qui vont pouvoir arrêter ça. Donc sous prétexte de ne pas pouvoir se protéger d'une attaque gouvernementale, être défaitiste, c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on va mettre déjà en place le minimum pour pas que la petite frappe ou le script qui dise du coin puisse dire « cool, je vais pouvoir contrôler ma centrale à partir d'un iPhone ou d'un Nexus ». Bon, déjà ça c'est pas mal parce que...
Ça c'est les chefs de projet à l'intérieur des OIV qui veulent ça. Pouvoir contrôler leur système.
Après, sur ce point-là, c'est un point qui est quand même personnel ou autre, mais dans l'homologation, il y a aussi prise de responsabilité. Donc, quand on va interconnecter des systèmes, il faut qu'il y ait un vrai gain et pas juste parce que c'est cool. Voilà, donc après l'interconnexion, ça effectivement, quand on va parler de smart grid, on peut gérer au mieux l'énergie, etc. Maintenant, relier son compteur sur Internet, c'est peut-être pas forcément... voilà, faut voir sous quelles conditions, ce qu'il faut faire, quel est le coût, bénéfice, les risques. Et on revient à l'homologation, qui est quel est le coût, quel est le bénéfice, est-ce que je m'expose finalement pour un service rendu qui est de l'ordre du superflu, mais pas du vital. Donc là aussi, interconnexion, mais raisonnée.
Bon, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez ajouter des choses ?
Est-ce qu'il y a, parce qu'on a vu que la France avait été un peu précurseur sur pas mal de textes qui sont partis au niveau européen, qui nous reviennent sous forme de directives, règlements, etc. On voit informatique et liberté ou des choses même comme le RGS qui aurait peut-être été vu comme un précurseur de IDAS, enfin un truc de 99. Est-ce que au niveau européen il y a des choses qui arrivent qui soient comparables à ce qu'on a fait dans la LPM?
Alors que comparable, non. Sur les mêmes sujets, si, les infrastructures critiques ou les services essentiels, ça arrive. Il y a la directive Nice qui arrive, donc ça peut faire l'objet d'une autre discussion.
Très bien, ben j'espère que ça sera l'occasion de se retrouver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode, d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.